Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans l'épître d'aujourd'hui, l'épître aux Galates, Saint Paul aux Galates, il y a en fin d'épître une phrase importante. Le Seigneur nous dit par Saint Paul que la liberté du Christ nous délivrera. Et je voudrais vous rappeler la doctrine de l'Église sur ce point très important de la liberté. Liberté dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée. Le problème, c'est cette liberté dont on nous parle tout le temps, dont le nom est inscrit sur tous les frontons de nos mairies en France. Bien, cette liberté n'a plus rien à voir avec la liberté catholique. La liberté dont on nous parle, qu'on voudrait nous voir acquérir, qu'on voudrait nous voir accepter, ce n'est pas la liberté, c'est la licence. Le droit de faire ce qu'on veut. La liberté n'est pas du tout le droit de faire ce qu'on veut. Saint Thomas d'Aquin, dans son génie, a défini la liberté d'une phrase lapidaire magnifique. Il dit que c'est la faculté que nous avons en notre âme du choix des moyens pour atteindre la fin. Ce n'est pas le choix de la fin, comme disent les gens modernes, c'est le choix des moyens pour atteindre la fin. Et la fin m'est imposée, et j'ai le droit de choisir parmi les différents moyens qui sont à ma disposition celui qui me convient le mieux afin que je puisse atteindre cette fin qui m'est imposée. La fin de notre vie, par exemple, c'est Dieu. Nous allons tous mourir, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Si ça nous plaise ou non, il y a un Dieu qui existe. Que ça nous plaise ou non, il nous faut bien utiliser notre âme pour obéir à la loi du bon Dieu et nous serons jugés en fonction de cette obéissance au jour de notre mort. Ça, c'est notre fin. Et pour atteindre Dieu, il y a différentes voies. On peut atteindre Dieu, par exemple, par la voie du mariage, on peut atteindre Dieu en restant célibataire, on peut atteindre Dieu aussi dans la voie consacrée, dans la voie religieuse. Et bien, il y a plusieurs moyens, c'est à nous de choisir objectivement ce qui nous convient le mieux en fonction des circonstances. Et donc, il faut bien faire attention à cela. D'où vient cette confusion? Mais cette confusion vient du fait qu'il y a plusieurs libertés, si vous voulez, philosophiquement parlant. On a tous, vous et moi, on a tous ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est une faculté qu'on a, notre âme, simplement de faire un choix. On appelle ça le libre arbitre. C'est ce qu'on appelle aussi la liberté psychologique. La liberté psychologique, c'est une liberté qui est propre à toutes les personnes raisonnables. Tous les animaux raisonnables, nous sommes des animaux raisonnables en tant qu'homme. L'animal raisonnable, parce qu'il a la raison, parce qu'il a l'intelligence, a le libre arbitre. Après, il va falloir qu'il applique ce libre arbitre aux situations présentes, différentes situations dans lesquelles il puisse se trouver. Ce qu'on appelle, cette fois-ci, la liberté morale. C'est à nous, évidemment, d'utiliser ce libre arbitre que le bon Dieu nous a donné afin de l'exercer pour le bien. Et puis, troisième forme de liberté, la liberté physique. La liberté d'agir en fonction de ce libre arbitre. Alors, on peut avoir une liberté. Tous les hommes ont la liberté qu'on appelle liberté psychologique, le libre arbitre. Tous les hommes ont la liberté morale, c'est-à-dire qu'ils doivent appliquer ce libre arbitre à la situation présente. Mais tous les hommes n'ont pas justement cette liberté physique d'agir en fonction de ce qu'ils veulent faire, parce que s'ils veulent faire quelque chose qui est interdit par la loi de Dieu, ils ne doivent pas avoir cette liberté physique. On ne va pas donner, par exemple, la liberté à un fou de prendre un pistolet ou un revolver et d'aller tuer tous ceux qu'il rencontre. Et donc, il faut seulement que les choses soient claires dans nos esprits. Nous avons du mal à comprendre ces choses-là parce que, justement, nous avons une fausse notion de la liberté. Il faut bien comprendre cette phrase donc, de Saint Paul, « La vérité vous délivrera », sous-entendu la véritable liberté. La vraie liberté qui consiste à choisir le moyen pour atteindre la fin qui m'est imposée va me donner me délivrer réellement. Au contraire, la fausse liberté fait de moi un esclave. Quelqu'un qui ne sait pas utiliser sa liberté comme il le doit devient esclave de ses sens. Il va faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Les conséquences de cette doctrine sont énormes. Il y a deux essentiels qu'il faut bien connaître. Puisque la liberté est simplement le choix des moyens pour atteindre une fin qui m'est imposée de l'extérieur par Dieu, eh bien, je n'ai pas le droit d'avoir une liberté de conscience. C'est une conséquence énorme. L'Église catholique a donc toujours condamné, depuis tout à fait le début, la liberté de conscience. Le texte le plus important sur ce sujet, c'est un texte qui date qui vient du temps de Pie IX, donc le plus grand pape de l'histoire de l'Église. En 1864, il a, par son grand encyclique Quanta Cura, condamné la liberté de conscience. Il a utilisé deux mots très forts pour la condamner. Il a dit, d'une part, c'est une liberté de perdition, d'autre part, a-t-il dit, c'est une insanité. C'est une folie intellectuelle de vouloir suivre la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est quoi? C'est-à-dire que chacun a le droit de faire sa propre conscience. Ça correspond à la fausse promesse, au mensonge que le démon avait déclaré à Adam et Ève. Rappelez-vous les mensonges du démon à Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux. Et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça la liberté de conscience. Chacun décide par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'il est son propre Dieu, et donc peut faire ce qu'il veut de sa conscience. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui, dans sa loi, nous a dit, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, etc. Cette loi divine, le décalogue, nous indique justement, donne une limite, en quelque sorte, à notre conscience. Il n'y a pas de liberté de conscience dans le sens que je n'ai pas le droit de prendre ce qui me plaît dans la loi du bon Dieu et d'évacuer et d'éjecter et d'éliminer ce qui ne me plaît pas. N'oublions pas que si nous acceptons le faux problème de la liberté, la fausse idée de la liberté de conscience, ça veut dire qu'il n'y a plus de péché. Chacun peut faire selon sa conscience, donc il n'y a plus de péché. Et que le jour où nous allons mourir, nous ne serons pas jugés, mes bien chers frères, selon notre conscience personnelle. Le jour où nous allons être jugés, le jour de notre mort, nous serons jugés selon la conscience du bon Dieu. Voilà pourquoi l'Église catholique a toujours condamné avec les termes les plus sévères la liberté de conscience. Et bien sûr, cette liberté de conscience, cette condamnation à la liberté de conscience fait partie du magistère infaillible du pape. Est-ce que c'est le pape qui, en tant que pape, parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire? Je vous parlais de la grande encyclique Quanta Cura de Pie IX, c'est là le magistère extraordinaire, pontifical, c'est-à-dire du pape qui seul agit au nom du bon Dieu en nous donnant la doctrine à suivre qui est nécessaire au salut pour chacun d'entre nous. Et malheureusement, dans le monde moderne, surtout dans l'Église de Vatican II, c'est très très clair, le nouveau commandement, le nouveau Dieu de l'Église de Vatican II, c'est la liberté de conscience. On nous en parle à longueur de journée. N'oubliez pas, la liberté de conscience ne peut pas exister. Deuxième conséquence, cette doctrine dont je vous parle, que je vous résume très rapidement, quelques minutes, c'est l'union nécessaire entre l'Église et l'État. C'est la deuxième conséquence, cette doctrine sur la liberté. Puisque nous vivons dans une société, l'homme est un animal raisonnable, mais en même temps un animal social qui vit en société, eh bien, dans une société, il faut une autorité. Il y a une cause efficiente de cette société, donc il y a une autorité, la société, tant la société ecclésiastique que la société humaine, a donc à favoriser l'acceptation de la loi du bon Dieu. Et donc cette société humaine va empêcher le faux usage de notre liberté, la liberté physique, à chaque fois qu'une personne n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà pourquoi le bon Dieu a quelque chose à dire, et dans l'Église, et dans l'État. De la même façon que pour qu'un corps humain puisse fonctionner normalement, il faut une union entre le corps et l'âme, de la même façon, il faut que l'Église et l'État soient unis afin que la société puisse fonctionner normalement. Donc l'Église est à l'État, ce que l'âme est au corps. Un corps qui domine, qui dominerait par exemple l'âme, est un corps qui va faire plein de bêtises. De la même façon, si l'État domine l'Église et ne suit pas l'influx spirituel donné par l'Église, et bien cet État va utiliser son influence pour détruire les âmes, tout simplement. Et donc il faut une union d'Église et d'État, et encore une fois, c'est une chose qui n'est plus du tout acceptée dans le monde moderne, puisque depuis maintenant la Révolution, malheureusement, il crée la séparation totale entre l'Église et l'État. S'il y a une séparation totale entre l'Église et l'État, ça veut dire quoi, mes bien chers frères? S'il y a une séparation entre l'Église et l'État, ça veut dire qu'on sépare complètement le domaine privé du domaine public. C'est le nouvel enseignement issu de la Révolution. L'Église a quelque chose a droit de dire quelque chose uniquement en privé. Dès qu'on met le pied dehors, on n'a pas franchi la porte de sa maison, on est dehors dans le domaine public, là, l'Église n'a plus rien à dire. Comme si le bon Dieu s'occupait de nous uniquement quand on était dans notre maison. Et dès qu'on a franchi le seuil de notre maison, le bon Dieu n'a plus rien à dire. Bien sûr que le bon Dieu a quelque chose à dire. Alors, lorsque nous expliquons ces choses-là, tout de suite, une objection qui nous est proposée de façon en général assez violente. Mais, monsieur l'abbé, vous faites de la politique. Il y a une politique catholique, mes chers frères. Il y a une politique catholique qui s'appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire. Et à nous préciser en matière politique, c'est pour ça qu'il faut l'union de l'Église et de l'État. Et si la Révolution française a séparé l'Église et l'État, c'est justement pour mettre le bon Dieu dehors de la politique. Rappelez-vous ces écrits épouvantables d'une des femmes les plus pourries qui aient jamais été ici sur la terre, Nina Blavatsky. Nina Blavatsky, c'est la fondatrice de la société théosophique, une des sociétés maçonniques les plus antichrétiennes qui aient jamais été. Elena Blavatsky disait justement qu'il voulait absolument évacuer, éliminer le bon Dieu de la civilisation. Rendre la vie ici-bas tellement impossible pour Dieu que bon Dieu s'en aille. Donc le but de la séparation de l'Église et de l'État, c'est tout simplement éliminer le bon Dieu. Éliminer l'influence divine, donc l'influence de l'Église pour chacun d'entre nous, afin que chacun justement puisse transformer la liberté que le bon Dieu lui a donnée en licence, faire ce qu'il veut, et donc c'est d'aller tranquillement. Si je dis qu'il faut absolument maintenir une séparation entre l'Église et l'État, je suis obligé d'en conclure que l'Église n'a plus rien à dire dans les domaines publics. Certes, il y a un domaine dans l'Église dans lequel l'Église n'a rien à dire, un domaine purement matériel. C'est évident que si la ville veut construire un hôpital à tel ou tel endroit, bon, l'Église catholique en tant que telle n'a rien à dire sur le lieu d'implantation d'un hôpital. Si l'État veut construire un pont à tel endroit au-dessus de la rivière, l'Église n'a rien à dire sur l'emplacement qu'il faut choisir pour le pont au-dessus de la Loire. L'Église n'a rien à dire là-dessus. Mais dans tous les autres domaines, dans le domaine mixte, dans le domaine spirituel, l'Église a à dire comme c'est quelque chose. En matière d'école, par exemple, en matière de lutte contre le vice, bien sûr que l'Église a quelque chose à dire. Et si on dit, comme les gens modernes le disent, que l'Église et l'État doivent être complètement séparés, que l'Église n'a rien à faire en matière de politique, ça veut dire que l'Église n'a rien à dire dans, par exemple, les lois favorisant les mœurs contre nature, ou les lois acceptant le divorce, acceptant l'avortement dans un pays. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de cette société. N'oubliez pas que la meilleure façon de détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement d'introduire la liberté de conscience à cause de ses conséquences, c'est-à-dire surtout la séparation entre l'Église et l'État. Donc, essayons, mes bien chers frères, de bien comprendre ces choses-là. Pour ceux qui veulent un peu approfondir ce sujet, je vous conseille beaucoup de lire la grande encyclique du pape Léon XIII, qui s'appelle « Libertas », prestantissime, vous pouvez avoir sur Internet très facilement, qui explique bien cette distinction. Je vous conseille aussi, si vous pouvez mettre la main dessus, de lire attentivement le livre de Mgr Lefebvre, « Ils l'ont découronné », qui explique bien, très bien ce problème. Rapidement, je vais vous dire aussi quelques mots sur l'évangile de la multiplication des pains. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ qui prêche et qui a beaucoup de monde, bien sûr, plusieurs milliers de personnes qui le suivent. Et puis ils sont fatigués, ils ont beaucoup marché, ils ont beaucoup écouté, ils sont fatigués et Dieu veut les nourrir, il va faire un grand miracle. Il y a un jeune garçon, quelques poissons, quelques pains. Et le bon Dieu va utiliser ces poissons et ces pains pour les multiplier afin de nourrir tout le monde. Vous savez que la tradition connaît très bien ce jeune garçon. Ce jeune garçon est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Il est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Le petit enfant, le petit garçon qui a apporté les pains, les poissons, c'est Saint Martial. Saint Martial, c'est l'apôtre de l'Aquitaine, l'apôtre de Limoges, l'apôtre de toute la région bordelaise. Bien, la foi catholique est arrivée par Saint Martial. Saint Martial avait une telle influence, était tellement populaire au Moyen-Âge, qu'on avait donné à Saint Martial le culte qu'on donne aux apôtres. Il était considéré en Aquitaine comme le 13e des apôtres. Bon, l'Église n'a pas complètement entériné cela, mais c'était la reconnaissance de l'Église pendant des siècles et des siècles. Eh bien, tous les pères de l'Église interprètent cette multiplication des pains, évidemment, comme un des multiples symboles que le bon Dieu va nous donner concernant la Sainte Eucharistie, le pouvoir de la Sainte Eucharistie. De la même façon que le pain nourrit le pain corporel nourrit le corps, de la même façon, le pain des anges, notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous les apparences du pain, justement, eh bien, ce corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ va nourrir les âmes. L'importance fondamentale de la Sainte Eucharistie. Il n'y a pas une seule église qui donne, nous dit le roi David, nous donne une proximité tellement, tellement évidente avec notre Seigneur. Nous sommes tout proches du bon Dieu, justement parce que le bon Dieu vient à nous. Si le bon Dieu venait à nous dans toute sa gloire, tout le rayonnement de sa gloire, nous serions complètement effarouchés, un peu comme les apôtres qui voient une toute petite partie de la divinité au sommet du tableau. Lorsque Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean ont vu notre Seigneur Jésus-Christ se transfigurer, ils ont paniqué complètement, parce que vous savez très bien qu'on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir ici-bas. Alors Dieu cache sa gloire, Dieu cache sa divinité, cache son humanité, sous apparence du pain, justement pour que nous n'ayons plus aucune excuse. Notre Seigneur Jésus-Christ se donne à nous et se rend le plus simple possible pour que nous puissions nous approcher de lui. D'où l'importance de la Sainte Eucharistie. Et certainement, dans les sacrements dont nous avons le plus besoin aujourd'hui pour arriver à tenir debout dans le monde de fou dans lequel nous sommes obligés de vivre, c'est précisément ce sacrement-là, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Le sacrement qui contient véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Voilà pourquoi l'Église, qui sait que ses enfants ont absolument besoin de la Sainte Eucharistie, l'Église a simplifié, je dirais, au maximum les choses nécessaires pour pouvoir s'approcher de ce sacrement. L'Église ne pose que trois conditions, c'est tout. La première, la plus importante, avant de pouvoir s'approcher de la Sainte Eucharistie, c'est évidemment l'état de grâce, un sacrement des vivants qui ne peut être reçu que par une âme en état de grâce. Malheur, malheur à celui qui a l'audace de communier un tas de péchés mortels. Communier un tas de péchés mortels, c'est vraiment un sacrilège dans toute son horreur. Donc la première condition, c'est être en état de grâce. Deuxième condition, c'est suivre les lois du jeûne eucharistique que vous connaissez tous. Donc 3 heures avant la communion pour les fidèles sans manger, sans prendre d'alcool, 1 heure pour les autres liquides avant la communion, sauf l'eau qui ne rompt pas le jeûne. Pour nous prêtres, la loi change, dans le sens que c'est 3 heures avant le début de la messe pour l'alcool et la nourriture solide, et 1 heure avant le début de la messe pour les liquides, alors que pour vous c'est simplement 1 heure avant la communion ou 3 heures avant la communion selon les cas. Donc il faut, mes bien chers frères, utiliser la présence réelle de notre Seigneur. Imaginez quelqu'un qui meurt de faim, qui se présente, qui est à la porte, si vous voulez, d'un grand hangar dans lequel il y a toute la nourriture possible et imaginable. Il ne se donne même pas la peine de rentrer dans le hangar parce qu'il est trop fatigué pour pouvoir rentrer ou trop paresseux pour rentrer dans l'hangar et se nourrir. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ se présente à nous pendant la Sainte Messe. Il nous donne son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc attention à se préparer correctement à la Sainte Messe. Il est bon, déjà, quand vous venez en voiture, peut-être dans la voiture qui vous amène ici à la messe, déjà de commencer un petit peu à penser à l'avance à la cérémonie qui va se passer devant vous. Renouvellement non sanglant, sacrifice du calvaire, c'est ça la messe. Pour ceux qui ont un petit peu de temps, même, je dirais la veille au soir, par exemple, de lire tout simplement les textes liturgiques du dimanche suivant. Vous saviez que c'est dimanche, le 4e dimanche du carême. Bon, mais je vais lire l'épître et l'évangile, par exemple, de ce dimanche, pour commencer un petit peu à me préparer préparer mon âme, justement, à l'importance de la messe à laquelle elle va assister le lendemain pour la messe du dimanche. Vous voyez, comme toutes ces choses, mes bien chers frères, sont importantes. Et après avoir reçu notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, à ce moment-là, s'occuper d'une action de grâce. Attention à nos actions de grâce. Faisons attention de rester quelques minutes après la messe afin de remercier notre Seigneur. Imaginez une maman qui assiste à quel anniversaire de son enfant, on donne un magnifique cadeau à l'enfant. L'enfant ouvre le cadeau, cherche même pas à remercier son donateur. Son bienfaiteur, c'est lui qui a offert le cadeau. Qu'est-ce qu'elle va faire la maman? Elle reprend le cadeau parce que l'enfant ne sait pas dire merci. Et la première des choses qu'il faut faire, parce qu'on reçoit notre Seigneur Jésus-Christ, après l'adoration, bien sûr, qui est pour le premier acte, qui doit être le nôtre, lorsqu'on reçoit notre Seigneur en Sainte Communion, après l'adoration, tout de suite, immédiatement après, le remerciement. Remercier notre Seigneur. Et puis, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il fallait demander pour pouvoir recevoir, qu'il fallait frapper à la porte pour que la porte puisse s'ouvrir, qu'il fallait chercher pour qu'on puisse trouver, eh bien, puisque nous avons trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai roi et vrai homme, par la Sainte Eucharistie, après avoir reçu justement la Sainte Eucharistie, après l'adoration, après avoir remercié notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de lui demander les grâces dont nous avons besoin. Beaucoup de grâces sont conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'une demande de ces grâces. Le bon Dieu est prêt à nous les donner, ces grâces. Et il veut qu'on se mette à genoux pour les demander. Il les donne à la mesure où on accepte de s'humilier pour recevoir ces grâces par un acte d'adoration. Donc apprenons, pas simplement à adorer, pas simplement à remercier, apprenons surtout à demander à notre Seigneur les grâces dont nous avons besoin. Le bon Dieu est une richesse extraordinaire puisqu'il est Dieu, il a tout, il possède tout, il est cause de tout. Il est prêt à nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin, à condition bien sûr qu'avec humilité nous sachions les lui demander. Le bon Dieu ne refusant jamais sa grâce à celui qui la demande avec humilité. Bien sûr, sans oublier que la grâce est 9 fois sur 10 cachée sous la croix. C'est sous la croix que sont les grâces. Donc il faut commencer par prendre la croix sur ses épaules, la soulever, la mettre sur nos épaules, avant justement de pouvoir récupérer et utiliser les grâces qui sont cachées sous cette croix. En demandant à celle qui est justement, qui est reine du ciel, qui est mère du bon Dieu, et qui a reçu toutes les grâces, elle est pleine de grâces, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. De nous aider à avoir le véritable usage de notre liberté, de nous aider à communier avec foi, avec espérance, avec charité, avec un grand désir du bon Dieu. Devenons des hommes de désir, devenons des hommes qui ont cette soif de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, dit sur la croix, j'ai soif, c'est ce qu'il veut dire. Il a soif d'âmes généreuses. Ayons cette générosité. Les âmes modernes sont complètement desséchées, savent plus donner. Nous demandons à notre Sainte Vierge Marie qu'elle nous obtienne toutes ces grâces de lumière, de connaissance, de sagesse que le bon Dieu est prêt à nous donner afin que nous puissions tous ensemble aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.